hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Jeanne Favret-Saada. Jeanne Favret-Saada, vous êtes philosophe de formation, anthropologue de métier, vous êtes l'auteur de nombreux livres. L'un, qui était le premier d'ailleurs, je crois, 1977, Les mots, la mort, les sorts, oui. La sorcellerie dans le bocage, avait fait date et continue à être un livre, peut-être un des seuls, le seul, d'anthropologie sur cette pratique encore courante, je crois, aujourd'hui, qu'est la sorcellerie en France. Ensuite, il y avait eu plusieurs livres importants, Corps pour corps, Enquête sur la sorcellerie dans le bocage, Le christianisme et ses juifs, un essai d'anthropologie politique. Ensuite, en 2007, Comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins. Ça, c'est un livre qui a été réédité l'année dernière, en raison d'une triste actualité sur laquelle nous allons revenir, désensorceler, un mot que vous avez peut-être inventé, et jeu d'ombre sur la scène de l'ONU. Nous allons tout de suite parler du blasphème et de l'importance que vous y accordez pour essayer de le comprendre et d'en comprendre son importance, surtout finalement en ce début d'année, pour en comprendre ses enjeux anthropologiques. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au blasphème et quel pouvoir lui accordez-vous ?
Non, au blasphème lui-même, je ne lui accorde aucun autre pouvoir que ceux qui accusent de blasphème essayent de lui donner.
Oui, mais quelquefois ça marche.
Ah, tout à fait. Donc moi, j'avais fini de travailler sur la sorcellerie et composé ce qui sera plus tard en 2009 le livre intitulé « Désorceler ». Alors que j'étais d'ailleurs...
Qui est différent de désensorceler.
Non, c'est la façon locale de dire désensorceler. C'est la façon dont dans le bocage, on parle du désorcellement. Je venais de terminer ça quand, au cours d'une longue maladie, écoutant beaucoup la radio, j'ai été tout d'un coup submergée en 1988 et 89 par des nouvelles... d'affaires considérées comme d'accusations de blasphème portées dans un premier temps par des chrétiens en France de l'Église catholique, aux États-Unis de évangéliques protestants contre le film de Martin Scorsese et La dernière tentation du Christ. Et en France, les événements ont pris un tour particulièrement grave parce que il y a eu des pas seulement des manifestations, mais des cinémas incendiés et des blessés graves, dont un est resté handicapé à vie. Et tout de suite après ça, Salman Rushdie sortait son roman en Grande-Bretagne et j'ai vu se mettre en place en plusieurs mois, entre septembre 1988 et février 1989, date à laquelle l'ayatollah Khomeini a condamné à mort Salman Rushdie, j'ai vu se mettre en place une énorme affaire internationale, toujours à base d'accusations de blasphème. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais...
Donc au nom de la religion catholique et au nom du Coran.
Voilà, au nom de l'islam.
Et pas du Coran.
Enfin, la phrase de Khomeini, c'était pour un livre qui va contre la religion... Et le prophète et le Coran.
Et donc là, c'est toute votre pratique d'anthropologue pendant des décennies dans le bocage, pratique anthropologique très particulière sur laquelle nous allons revenir parce que vous êtes une anthropologue chaude, entre guillemets, c'est-à-dire opposée à froide. C'est-à-dire que vous avez écouté pendant très longtemps, vous avez assisté et écouté les parties dans ce système de sorcellerie et vous avez été observatrice, participatrice. Et je pense que votre pratique anthropologique qui a donné ce livre si fondamental sur la sorcellerie vous a permis de démêler les fils de ce blasphème contre la tentation du Christ et contre le livre de Salman Rushdie.
Sauf que là, c'était un autre genre de travail parce que ça n'était pas exactement un travail de terrain. Ça se passait d'abord sur un terrain international. Par exemple, pour l'affaire Scorsese et en France, il y avait un théâtre français, mais aussi italien ou britannique, où d'ailleurs le livre, malgré le fait que les évêques ont essayé d'empêcher les fidèles d'y aller, a été pris pour un grand film chrétien, ce qu'on ne sait pas en général. Aux États-Unis, où les évêques catholiques ont refusé de s'engager parce qu'ils avaient peur de passer pour des dévots comme leurs collègues protestants. Et donc j'ai vu comment cette accusation varie selon les instances d'autorité qui décident de s'en servir ou pas.
Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des étapes qui conduisent, puisque vous avez fait une réédition à cet ouvrage où vous parlez de la triste, hélas, actualité de l'an dernier avec les caricatures de Charlie?
Non, alors ce qui s'est passé après, j'ai consacré mon séminaire à ces affaires de blasphème, aussi bien de l'ancien régime européen que actuel. J'en ai étudié tout un paquet d'actuels, dont l'affaire Rushdie. J'ai très peu publié parce que c'était très difficile. Et c'est un travail en soi très difficile parce qu'il y a des acteurs très nombreux dispersés dans des pays. Donc tous les contextes sont extrêmement difficiles à saisir et je considérais qu'il y avait lieu de les saisir. Et en fait, c'est en 2005, quand est intervenue cette affaire des dessins du Jyllands-Posten, le journal danois, qui publiait 12 représentations de Mahomet, qui n'étaient pas des caricatures, c'est-à-dire il n'y avait que 4 caricatures sur les 12, qu'est née ce qu'on a appelé l'affaire des caricatures de Mahomet. Et là, j'ai été de fait enquêtée au Danemark, mais pas à la façon dont je l'avais fait avec la sorcellerie, parce que il s'agissait d'une affaire publique, c'est-à-dire ceux qui avaient fait des déclarations publiques n'allaient de toute façon pas faire d'autres déclarations. Mais j'ai enquêté auprès des entourages de tous, de voir qu'est-ce qui les avait amenés à prendre ces positions-là et pourquoi et comment toute l'affaire s'était faite. Et j'ai fait aussi une grosse enquête dans la presse internationale, c'est-à-dire dans les langues que je connais, mais aussi bien au Pakistan, enfin la presse en anglais, au Pakistan, en Inde, sur tous les théâtres de l'affaire, au Moyen-Orient, etc., quel qu'il soit, la presse en français, en anglais, en espagnol et en italien, si vous voulez. Et j'ai constitué une histoire de cette affaire-là, ce que personne n'a fait. Qui sont les acteurs? Pourquoi ils ont fait ça? Par qui ils ont été relayés ensuite, etc.
Et comment c'est une se constitue l'universalisation du blasphème? Comment, à partir du moment où l'imam Khomeini dit quelque chose, comment, tout d'un coup, toute une partie de la planète s'embrase?
Non, mais là, c'est un coup qui a pris. C'est-à-dire que la fatwa de l'imam Khomeini, la décision de l'imam Khomeini, était, du point de vue du droit musulman, y compris chiite, complètement frauduleuse à mille égards. Et de toute façon, une fatwa, c'est juste un conseil juridique qu'un spécialiste de la charia donne soit à un juge, soit à des citoyens, à des fidèles qui veulent éclairer un problème de leur vie religieuse. Ça ne peut en aucun cas être un jugement de mort. S'il doit y avoir un jugement, il faut un tribunal présidé par un cadi, ce qui n'a pas été le cas là. Là, on a juste vu un reporter qui est venu à la télé et qui a lu un texte de l'ayatollah Khomeini condamnant à mort non seulement Rushdie, mais ses éditeurs, ses libraires
et
ses futurs traducteurs. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est tous ceux qui auront affaire avec Rushdie, au nom de l'islam mondial. Et la chose absolument stupéfiante, c'est que tous les islams, pas seulement chiites, se sont reconnus, enfin des fondamentalistes de tous les islams sunnites et chiites se sont reconnus là-dedans. Et des djihadistes, on dirait aujourd'hui sunnites, se sont mis à aller à la recherche de Rushdie, de ses traducteurs, etc., pour essayer de les assassiner. Et en ont assassiné un certain nombre ou frappé sans arriver à les tuer tout à fait.
Voilà. Alors pourquoi ?
Non, ce que ça dit, ça, c'est simplement qu'en 1989 et depuis, on est dans un moment historique où, pour des raisons qui seraient très très longues d'expliquer, la passion religieuse est mobilisable dans l'islam alors qu'elle ne l'est pas du tout dans le christianisme. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, par exemple, à propos de la dernière tentation du Christ, c'est qu'évidemment le Vatican était contre ce film. Évidemment, le Vatican aurait voulu mobiliser, mais qu'il ne le pouvait pas du tout. Et donc, quand il y a eu des actions, c'était celles des églises locales qui voulaient bien faire quelque chose. Et par la comparaison entre ces deux affaires, on voit bien qu'à cette période-là, 1988-1989, et beaucoup plus encore, 2015-2016, la passion religieuse est du côté des islams, parce que je ne parle jamais de l'islam, moi je considère qu'on arrive tout de suite dans des affaires de civilisation et d'essence si on dit l'islam. Il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a de croyants, il y a des tendances de l'islam, pas seulement sunnite et schisme, mais 40 interprétations différentes ou 220 interprétations différentes de chacun. Et
ça, vous pensez que c'est une caractéristique de cette religion ?
Non, pas du tout. C'est une caractéristique de cette religion dans ce moment, dans son rapport avec les pays occidentaux, dans ce passé qu'on a depuis deux siècles, que les pays musulmans ont depuis deux siècles avec les pays occidentaux.
Alors pourquoi aujourd'hui cette passion religieuse mortifère prospère-t-elle ? Est-ce dû à une sorte d'effondrement de la connaissance des religions qui permet l'engouement des masses ? Quelles en sont les racines,
non, vous
selon
savez,
vous,
mais non,
Jeanne Favre Saada ?
Quand l'imam Khomeini était un savant en charia, ça faisait 30 ans qu'il enseignait ça à Qom. Donc quand il décide de faire une fatwa entièrement frauduleuse,
il sait très bien ce qu'il
fait.
Donc il instrumentalise sa religion.
Non, on ne peut pas dire ça.
Pas.
Il remplace sa religion par une version révolutionnaire, par une interprétation révolutionnaire de sa religion qui le met d'emblée au sommet, pour ce qui est de la réputation de meilleur défenseur de l'islam, au sommet de tous les musulmans de l'époque. Et tous les musulmans dévots, prêts à tuer, etc., partout dans le monde, qu'ils soient sunnites ou chiites, se sont reconnus là-dedans. Il a risqué un acte dont il ne savait pas qu'il serait reconnu par tous, mais qui voulait lui donner la représentativité, le titre de le plus grand défenseur de l'islam. Et dans toutes ces affaires de blasphème, y compris avec les chrétiens, à chaque fois, il y a des groupes dévots qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui essayent d'impressionner un public pour lui prouver qu'ils sont, eux, les meilleurs défenseurs de la religion. Par exemple, dans l'affaire de la dernière tentation du Christ, on a bien vu que quand le Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, s'est mis à apostropher François Mitterrand, le chef de l'État, en lui disant « ce film ne peut pas sortir, il va se passer des choses épouvantables, les chrétiens ne le supporteront jamais, vous allez avoir grosso modo une guerre civile », et qui s'est mis à se promener dans les rues avec une croix pour... En fait, qu'est-ce qui s'était passé ? C'était l'été où Monseigneur Lefebvre avait rompu avec l'Église catholique, et certains groupes de dévots d'extrême droite autour de Romain Marie, alors député européen du Front National, avait des commandos qui s'appelaient les centres Charlier, centre machin et machin Charlier, et envoyaient ces groupes contre les cinémas qui jouaient la dernière tentation du Christ. C'est-à-dire, l'archevêque de Paris était dans la rue parce qu'il espérait comme ça coiffer au poteau. En fait, les gens liés à Romain Marie étaient les seuls qui n'avaient pas suivi Monseigneur Lefebvre et qui avaient dit « nous restons dans l'Église, nous restons fidèles à l'Église ». Et Monseigneur Lustiger a essayé de retenir ses fidèles de l'Église en criant plus fort qu'eux, en essayant de faire interdire le film avant qu'il ne sorte dans la rue, et il n'y est pas arrivé. Et donc, quand on travaille sur une affaire de blasphème, quelle qu'elle soit, on se trouve toujours devant des situations de ce genre. C'est-à-dire des groupes dévots en compétition pour remporter l'adhésion de fidèles qui sont dans un immense public, éventuellement mondial. En France, c'était les catholiques français pour l'affaire. Hein. Et il s'agit de leur prouver qu'on est meilleur que l'autre. Et donc, on se radicalise. Donc, Mgr Lustiger a été au maximum de radicalité qu'il pouvait faire en se tenant néanmoins dans la laïcité, mais en allant fort. Et ces nervis, les nervis de Romain Marie, ont été un coup plus fort. Alors, nous, et à chaque fois, c'est ça qui rend la chose dangereuse.
Alors, je pense que votre grille d'interprétation nous est très précieuse. Un an après la tragédie de janvier dernier en France et les caricatures de Charlie Hebdo, parce que je crois que nous avons tous un peu la mémoire courte et que nous avons tendance à oublier les malheurs précédents comme si nous les ensevelissions sans même nous en rendre compte, alors que peut-être, justement, il y a une sorte de, peut-être pas de causalité, mais enfin des systèmes de raisonnement qui perdurent à l'intérieur de certaines têtes, et notamment pour essayer non pas d'expliquer ni d'excuser, ni encore moins de comprendre, mais pour essayer de cartographier les agissements des assassins de Charlie Hebdo. Je vous propose d'écouter la voix de Salman Rushdie. C'était le 14 novembre 2012.
Si l'on considère l'histoire de la littérature, lorsqu'il y a eu des attaques contre des livres, ça a toujours été important de défendre le livre en question, pas simplement de défendre le principe de la liberté de parole. Donc quand il y a des attaques sur, disons, Lolita de Nabokov, ou l'Ulysse de Joyce, ou quel que soit le livre d'ailleurs, il y avait un désir de la communauté intellectuelle de défendre la qualité du texte lui-même. Et pour moi, c'était aussi extrêmement important que les gens ne disent pas simplement « il a le droit d'écrire un livre, même si c'est un très mauvais bouquin ». Non, je veux que quelqu'un dise « non, c'est pas un mauvais livre ». Et beaucoup d'écrivains étaient prêts à le faire, finalement. Et ça, c'était aussi très important.
Alors, est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une histoire d'un livre, selon vous, Jeanne Favre-Saada ?
Oui, certainement, certainement. Il s'agissait d'un livre qui, dont une petite partie était une satire, aboutissait à une satire du prophète Mahomet tel que les musulmans dévots le voient.
Est-ce que vous y voyez les racines de ce qui s'est passé au moment de Charlie Hebdo l'an dernier ?
Pas dans le livre, dans non. La réaction de l'imam.
Oui.
Oui, bien sûr.
C'est la possibilité pour certains de se croire investis du pouvoir suprême, c'est-à-dire de faire mourir des Absolument. Gens qui se livrent à ce qui s'appelle, selon eux, du blasphème.
Absolument, c'est ce que ça a commencé avec l'affaire de Salman Rushdie et ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire que c'est on a oublié, par exemple, tout ce qui est arrivé au dessinateur du Jyllands Posten et au Jyllands Posten lui-même. Or, le dessinateur le plus visé a été quand même attaqué 7 fois. Et il est encore en vie, mais c'est un peu par hasard. Et d'une fois sur l'autre, on oublie régulièrement tout ce qui s'est passé. Et je crois que ça tient à ce que la recherche n'est pas là. Personne n'y réfléchit. Les médias, d'une fois sur l'autre, se contentent de brasser l'actualité sans aller chercher plus loin. Et toujours en traitant ça comme une affaire du Moyen-Âge. Justement, ça n'est pas des affaires du Moyen-Âge.
C'est des affaires d'hypermodernité,
selon
vous.
Absolument. On est en plein là-dedans.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance, donc d'après votre dernier livre, il y aurait une alliance, hélas, objective entre la multiplication des réseaux sociaux, l'avènement d'Internet et la propagation de la possibilité du blasphème.
Ah, mais c'est plus grave que ça. Dans le livre qui s'appelle « Jeux d'ombre sur l'ONU », j'ai montré comment, avant l'affaire des dessins de Mahomet, c'est-à-dire, et j'ai montré comment l'année 1998, précisément, j'ai constitué l'histoire des positions de l'ONU cette année-là, c'est-à-dire avant 2001, avant le 11 novembre 2001, d'où on fait toujours tout découler, comme si c'était ces attentat-là qui avait radicalisé tout le monde. Non, déjà en 1998, l'ONU a changé ses priorités de défense de la Déclaration des droits de l'homme en respect pour les religions, en défense de la respectabilité des religions. L'UNESCO était déjà engagée là-dedans depuis très très longtemps.
Et pourquoi ?
Parce que je crois que la montée en puissance géopolitique du monde musulman a produit cet état de choses. Et que, au surplus, le système de vote à l'ONU, un pays, un vote, faisait que ces pays-là, alignés sur ce qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde, avaient toujours la majorité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pays qui sont capables de mettre en cause des positions politiques grosso modo libérales et occidentales à l'ONU, et encore plus à l'UNESCO, depuis très longtemps, et on ne le sait pas.
Alors pourquoi cette internationalisation, donc sanctifiée par les plus hautes instances internationales comme l'ONU, a été rendue possible, vous l'expliquez très bien dans le bouquin, par tout simplement le nombre de voix. Ils ont obtenu la majorité. Mais pourquoi cela ? Est-ce que c'est...
Oui, mais en Europe même, nos chefs d'État, les instances européennes, ont immédiatement condamné les desseins du Jyllands Posten et la politique du Premier ministre danois, qui était un membre important de l'Union européenne et qui allait en être incessamment président. Hein, c'est-à-dire qu'ils auraient voulu qu'il n'y ait pas d'ennui. L'idée, c'est pas d'ennui avec les musulmans depuis déjà presque une dizaine d'années. Comme mot d'ordre en Grande-Bretagne à cause de Blair, de la politique de Blair et de la politique multiculturaliste.
Mais c'est pas à vous, anthropologue, Jeanne Favre-Sada, que je vais dire les musulmans. Ça veut dire quoi, les musulmans ?
Ça veut rien dire. Ça veut dire ceux qu'on arrive à mobiliser, les fidèles de l'islam qu'on arrive à mobiliser dans telle affaire. Par exemple, j'ai montré dans mon livre que, contrairement à ce qu'on imagine, les musulmans danois, entre guillemets, ne sont pas du tout engagés derrière les cinq imams qu'on appelle danois, bien que deux d'entre eux seulement soient et la nationalité danoise, qui ont monté ce complot avec l'aide du gouvernement égyptien et l'internationalisation de l'affaire ensuite à tout le monde arabe, au Pakistan, etc. Et j'ai montré que les musulmans habitant au Danemark n'ont pas été à la première manifestation et unique qu'ont organisé les imams. Il n'y avait personne, il y avait les mêmes militants des différents groupuscules d'extrême gauche qui étaient là d'habitude, mais pas un musulman danois fidèle ordinaire du Danemark. Le plus agressif de ces imams a mis les dessins dans sa mosquée en espérant qu'il était très près des locaux du Jyllands Posten, en espérant que les fidèles allaient se ruer sur le journal. Personne n'a bougé. Hein, donc il s'agit à chaque fois de gens qui disent « moi j'appelle ça blasphème et je prends en charge cette action de revendication contre, disons pour aller vite, l'Occident, le gouvernement danois, etc. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants européens, à l'exception de Mme Merkel d'ailleurs, Jacques Chirac chez nous par exemple, on dit que c'était pas du tout bien de faire ses dessins, de publier ses dessins. Et quand la presse internationale, au 1er ou 6 février 2006, s'est mise à les publier partout, parce qu'ils voyaient bien que la liberté d'expression commençait à être en danger avec tous ces chefs d'État qui condamnaient les dessins, partout, sauf en Allemagne, les chefs d'État se sont été pas contents que leurs journalistes les publient. Et donc, il y avait une liberté d'expression réellement en danger, au niveau pas seulement... C'est pas seulement que des dévots musulmans sont dangereux, embêtants, menaçants, inquiétants. C'est aussi que les instances de l'ONU, de l'UNESCO, de l'Europe leur donnaient raison. Mais et comment, c'est ça le fait vraiment important.
Comment expliquer le fait que des menaces de blasphème qui n'émanent pas véritablement d'un corpus religieux soit devenu effectif, entraîne les conséquences aussi graves que celles qu'elles ont entraînées. Et comment se fait-il que la communauté internationale n'ait pas pris cela au sérieux? Et comment est-on passé d'une sorte d'incorporation de l'atteinte à la liberté d'expression, plus ou moins déguisée, puisque vous nous dites que finalement, cette possibilité de caricaturer le prophète n'est pas inscrite dans un corpus religieux de l'islam, mais le fait que Khomeini l'ait articulé, ça l'a rendu possiblement légitime, et finalement on a perdu cette liberté d'expression. Comment accepter que cette liberté d'expression ait quand même entraîné cette tragédie de janvier 2015, selon vous?
Eh bien, tout bonnement parce que les gens de Charlie Hebdo ont été les défenseurs les plus acharnés de la liberté d'expression de toute l'Europe à ce moment-là. Et ils ont continué constamment de 2006, date à laquelle, avec les autres journaux, ils ont publié les dessins du Jyllands-Posten, mais ils les ont publiés à ce moment-là avec des caricatures de Cabu, dont la fameuse, dans laquelle, en couverture, dans laquelle Mahomet disait « c'est dur d'être aimé par des cons ». Et ils ont continué ensuite à publier des caricatures de Mahomet, comme ils en publiaient d'ailleurs du pape et de toute une série d'êtres surnaturels, au fil des ans. C'est-à-dire ils n'ont pas publié beaucoup plus de caricatures de Mahomet que du pape, même franchement moins. Il y a une étude de statistiques sur la chose, c'est pour ça que je sais. Mais les dévots musulmans qui avaient décidé que c'était un blasphème et que le journal n'avait pas le droit de le faire, et que, puisque la justice ne les punissait pas, nous les punirons, nous. Un beau jour, des frères Kouachi se sont levés, ont préparé leur affaire pendant un an ou deux et les ont abattus.
Alors que faire plus d'un an après la tragédie de Charlie Hebdo et de l'hypercachère?
Que faire? Moi, je suis pas. C'est pas moi qui.
Est-ce que vous avez l'impression que les tutelles politiques sont assez pertinentes et cohérentes dans leur action? Est-ce que on se pose assez la question des racines de ces gestes? Est-ce que ce sont des enfants perdus de la République? Est-ce que l'état d'urgence est une bonne solution? Tout ce que vous nous dites de la mise en place à la fois européenne mais aussi internationale avec l'alliance de la puissance du religieux nous laisserait peut-être croire que nous sommes impuissants.
Non, nous ne sommes pas impuissants parce que de toute façon, il y a un moment où ils vont se fatiguer. C'est-à-dire qu'avec la tuerie du vendredi 13 novembre 2015, on voit bien qu'ils ont été complètement au-delà de simplement mettre en cause la liberté d'expression, mais mettre en cause les populations de France, tout entière, quelle que soit leur religion, puisqu'il y a eu évidemment aussi beaucoup de musulmans qui sont morts dans cette tuerie de masse du vendredi 13 novembre, et c'est la France qui a été punie par, semble-t-il, Daesh. Bon, après ça dépasse complètement. Probablement, il faut un état d'urgence, mais tout dépend à quelle efficacité on parvient.
Donc, selon vous, on est en train de vivre une période historique qui s'est inaugurée il y a une vingtaine d'années et qui va continuer encore combien de temps?
Ah ben ça va continuer jusqu'à ce que soit nos gouvernements aient réussi à... En fait, ce qu'ils semblent vouloir faire, c'est coaliser derrière eux tous les musulmans vivant en Europe ou en France et qu'ils se retournent contre le gouvernement français, pour parler de la dernière affaire, simplement. Et ça, ils n'ont aucune chance.
Manifestement, c'est un échec. Ça, pour le moment.
Ils n'y arriveront jamais. Probablement, ils n'y arriveront jamais. Donc, il faut le temps qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas. Et pendant ce temps-là, ben, c'est à nos services spéciaux, à nos polices, et pourquoi pas aussi à nos services sociaux, à faire en sorte qu'il y ait moins de gamins désespérés dans les quartiers sensibles.
Est-ce que l'enseignement de l'histoire des religions à l'école vous paraît être une bonne orientation?
Non, moi je pense pas ça du tout. Et je pense de toute façon, la plupart des jeunes djihadistes, qu'ils soient des quartiers ou d'ailleurs, on voit bien qu'ils sont complètement perdus. Je préfère la suggestion de Stora, disant il faut leur faire comprendre pourquoi ils sont là. Parce que personne ne leur a dit qu'est-ce qu'ils faisaient là. Leurs parents ne leur ont rien dit. Leurs parents les ont élevés dans la haine de la France coloniale. Mais ils sont dans la France post-coloniale. Et aucun commentaire...
Peut-être pas tous les parents.
Et aucun parent n'en parle à ses enfants, parce qu'on ne sait pas comment... Ils ne savent pas comment l'expliquer. Et je crois que tous les enfants...
C'est peut-être à cause de l'absence de pertinence du contenu de notre éducation.
Oui, en tout cas, nous pouvons faire quelque chose du côté de l'éducation, qui est de donner un enseignement de l'histoire, mais qui comporte un enseignement détaillé de l'histoire de la colonisation et un enseignement détaillé des raisons pour lesquelles ils sont là avec d'autres immigrés qui sont portugais, comment les différentes immigrations sont arrivées en France et quel a été leur parcours. Et ça n'est pas présent dans l'enseignement, l'histoire des immigrations. Et j'aime mieux les suggestions de Stora que ceux qui pensent qu'il faut enseigner les religions, parce qu'elles ne sont pas là pour grand-chose, les religions. De toute façon, depuis les 1900, les années 90, disons, la France a laissé, le gouvernement français a laissé l'enseignement wahhabite, saoudien, salafiste envahir complètement l'enseignement de l'islam.
Dans les mosquées.
Et oui, c'est ça, et aux enfants. Et une nouvelle norme, qui est maintenant la norme wahhabite, est partagée par tous les moins de 30 ans. Et on ne peut pas leur dire que ce n'est pas la vraie religion, parce que c'est la religion...
Ils n'en connaissent pas d'autres versions.
Et puis ça s'appelle islam. On ne va pas leur dire qu'il y a un vrai islam. Une des choses qui me frappe le plus, c'est comment on se précipite dans les débats actuels, soit pour dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, alors qu'évidemment ça a à voir avec certains islams, ou bien on dit que ça n'a rien à voir avec le social, alors que ça a à voir avec certains problèmes sociaux, dont le récent gros livre de l'INED sur les parcours des immigrés est
oui,
tout à fait...
Oui, alors ça, il faut en dire deux mots. Donc c'est un énorme rapport qui est le fruit de centaines de chercheurs qui prouvent que l'intégration...
22 seulement.
Oui, mais en France, ça prouve quand même qu'on n'arrive pas à intégrer. On n'arrive pas. Les principes d'intégration fonctionnent beaucoup plus mal que dans d'autres pays européens. Pourquoi ?
On n'arrive pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait les 20 dernières années. C'est aussi simple que ça.
Mais pourquoi ?
Ah bah parce que c'était
pourquoi on exclut ? Pourquoi on marginalise ? Pourquoi à diplôme égal on n'engage pas ?
Mais parce que d'abord je crois qu'il faut qu'on accepte de dire maintenant que la France est aussi un pays raciste. Écoutez, moi qui m'appelle donc Saada, qui est Saada dans mon nom, quand j'ai voulu me loger à Marseille en 1994, je ne trouvais pas, je n'ai pas réussi à... Si je donnais mon nom, je ne pouvais pas louer. J'ai dit bon, je vais acheter. Même pour acheter, on refusait le nom de Saada. Les agences me disaient toutes l'une après l'autre, ah non, ça vient d'être vendu. Pour eux, c'était une arabe et voilà. Et pour acheter, j'ai dû finalement m'appeler Favré. Et c'est chez le notaire que j'ai dit, voilà, Favré s'appelle Saada. Et ils ont dû l'avaler parce que c'était fait.
Jamais. Et depuis en 2016, ça s'est aggravé.
Ah, ça s'est beaucoup aggravé.
Nous allons écouter la voix de Gilles Deleuze qui va parler du parcours politique de Spinoza. Gilles Deleuze qui a été très important à l'intérieur de votre itinéraire, Jeanne Favré-Saada.
Quand tu parles de la conception politique de Spinoza, moi je crois qu'on sera amené à en parler du point de vue toujours de ces recherches qu'on fait cette année sur l'ontologie. En quel sens est-ce que l'ontologie peut comporter ou doit comporter une philosophie politique ? Il ne faut pas oublier que quant aux histoires, quand tu as fait allusion à la monarchie libérale, n'oubliez pas qu'il y a tout un parcours politique de Spinoza, je le dis très vite là, comme j'en avais pas encore parlé. Un parcours politique très, très, très fascinant, quoi. Parce qu'on ne peut pas même lire un livre de philosophie politique de Spinoza sans comprendre quel problème il pose, quel problème politique il vit. Parce que les Pays-Bas, à l'époque de Spinoza, c'était pas, C'était pas simple, la situation politique. Or, tous les écrits politiques de Spinoza sont très branchés sur cette situation. Or, si vous voulez, c'est pas par hasard que Spinoza fait deux livres de philosophie politique. L'un, le traité théologico-politique, l'autre, le traité politique. Et que, entre les deux, il s'est passé assez de choses pour que Spinoza ait évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que les Pays-Bas ont toujours été, à cette époque-là, étaient déchirés entre deux tendances. Il y avait la tendance à la Maison d'Orange, et puis il y avait la tendance libérale des frères de Witt. Or, les frères de Witt, dans des conditions d'ailleurs très obscures, qu'on verra, l'ont emporté à un moment. Bon, la Maison d'Orange, c'était pas rien, hein, c'était quand même une politique... je veux dire, ça mettait en jeu tout, la politique extérieure, les rapports avec l'Espagne, la guerre ou la paix, les frères de Witt étant fondamentalement pacifistes, ça mettait en jeu la structure économique, la Maison d'Orange appuyait les grandes compagnies, les frères de Witt étaient très hostiles aux grandes compagnies, tout ça, ça brassait tout, hein, cette opposition Maison d'Orange, frères de Witt. Or, les frères de Witt ont été liquidés, hein, c'est-à-dire assassinés. Assassinat des frères de Witt dans des conditions extrêmement pénibles. Spinoza a ressenti ça comme vraiment le dernier moment où il pourrait plus écrire, hein, parce que il pouvait y passer lui aussi, tout ça c'était pas simple, mais l'assassinat des frères de Witt lui a porté un coup, surtout qu'il semble bien que les frères de Witt, enfin que l'entourage des frères de Witt protégeait Spinoza.
Nous venons d'entendre la voix de Gilles Deleuze, donc parlons de Spinoza. Outre son phrasé très particulier, l'envoûtement procuré dès qu'on l'écoute, il y a aussi cette clarté dans l'exposition des idées et cette furieuse envie qu'il vous a donnée de continuer à faire de la philosophie, car vous avez eu la chance de l'avoir comme enseignant.
Moi, je l'ai eu comme... Il était à ce moment-là assistant à la Sorbonne.
Quelle chance vous avez eue. Justement, il travaillait peut-être sur Spinoza.
Et je croyais précisément connaître bien Spinoza parce que j'avais fait un brillant mémoire sur le traité théologico-politique. Et je suis un cours de Deleuze là-dessus et je m'aperçois que je n'avais rien vu. Et parce que Deleuze se met toujours au moment où un penseur va trouver quelque chose, au moment de la naissance du concept. Ce que, évidemment, je n'avais pas vu du tout comme étudiante qui prend tous ces auteurs morts depuis 300 ans comme un ensemble et qui essaye de se débrouiller avec. Et Deleuze m'a rendu la philosophie vivante. Et il se trouve que j'avais déjà eu la chance à Tunis d'avoir l'enseignement de François Châtelet. Et entre les deux, c'est eux deux qui m'avaient donné envie de faire de la philosophie. Simplement, quand je me suis retrouvé professeur de philosophie à Quimper, doté d'une agrégation de philosophie, c'est-à-dire déjà pensionné à 23 ans, sûr de faire ce que je voudrais dans la vie à 23 ans, et que je me suis retrouvé avec un programme, mais horrible, et des élèves fort sympathiques, mais on a fait de la philosophie pendant un an, et je leur ai dit, écoutez, maintenant il y a des manuels, vous allez les lire, les voilà, vous allez les lire et vous allez passer le bac avec ça. Toutes ont eu le bac, elles ont potassé pendant un mois, elles ont toutes eu le bac, mais moi je ne voulais plus recommencer à enseigner. Donc j'avais pas un problème avec être philosophe, j'avais un problème avec être professeur de philosophie. Et en fait, je connaissais aussi très bien à cette époque-là Maurice Merleau-Ponty, à qui j'ai dit que je voulais être ethnologue et qui m'a, à ce moment-là, branché sur Éric de Dampierre, qui dirigeait les sciences sociales à l'UNESCO et qui m'a donné ma première vraie bibliographie d'anthropologie, car j'avais fait un an d'ethnologie au Musée de l'Homme où je n'avais rien appris. et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler l'anthropologie.
Et c'est comme ça que vous êtes devenu anthropologue, d'abord dans le Bocage et que vous avez fait ce livre
d'abord
magnifique.
D'abord en Algérie.
D'abord en Algérie, où vous avez eu aussi la chance de croiser Bourdieu, donc vous en avez manqué aucun des grands
non,
de
Bourdieu,
cette période.
Non, Bourdieu, je ne l'ai pas croisé, je lui ai succédé.
Ben, c'est encore plus chic, c'est encore plus chic. Mais alors, aujourd'hui, nous sommes en 2016. Il y a 6 ans, dans Libération, vous aviez publié un texte qui nous avait tous interpellés, qui s'intitulait « Une province reculée de la Cacanie ». Et voici ce que vous dites dans ce texte. « J'ai 75 ans, donc c'était il y a 6 ans. Je suis née française de deux parents français, nés eux aussi en Tunisie, ainsi que le dit mon acte de naissance. Mes études supérieures à la Sorbonne ont été sanctionnées par une agrégation de philosophie pour laquelle je n'ai eu, en 1958, aucun mal à prouver ma francité. Après quoi, j'ai été fonctionnaire de l'État sans interruption pendant 41 ans, et je suis depuis pensionnée de l'État. Tout au long de ma vie, j'ai obtenu plusieurs cartes d'identité, plusieurs passeports, plusieurs cartes d'électrice dont il doit rester trace dans les services concernés. Mais la preuve de sa nationalité incombe au demandeur, pas à l'administration. Vous appelez Jeanne Favret-Saada et on vous cherche encore des histoires pour prouver que vous êtes française.
Ah, mais c'était incroyable. Je me suis fait voler un sac sur une autoroute espagnole. Donc, je devais refaire mes papiers. Et ça a été impossible pendant 6 mois. Je suis restée sans papier pendant 6 mois, ne sachant pas combien ça durerait. C'est-à-dire à cause des lois Pasqua réactivées sous Sarkozy. Il fallait être avoir un certificat de nationalité française quand ses deux parents étaient nés hors de France. Et pour ça, il fallait qu'un greffier du tribunal d'instance, qu'on ne rencontre jamais, on ne parle qu'à des guichetiers, et on vous fait savoir sur une feuille de papier quel papier vous devez fournir. Des papiers que je n'avais pas, du genre le livret militaire de mon père. Mais j'avais, par contre, les papiers, tous les papiers de ma famille avaient été établis à ce même tribunal de Marseille, après l'indépendance de l'Algérie en 1956. Mais ce tribunal, qui était devenu entre-temps un tribunal de grande instance, avait liquidé toutes les archives. Donc il n'y avait plus trace de ce que ma sœur jumelle, qui a des papiers disant qu'elle est française, mon frère aîné, mon père, etc., étaient français. Et j'ai montré des photocopies de leur certificat, mais ça n'allait pas. Et il a fallu que le greffier écrive lui-même à l'armée, au bureau, aux archives de l'armée à Pau, et il obtienne le livret militaire de mon père.
Et aujourd'hui, vous avez vos papiers ? Vous êtes en règle, Jeanne Favret-Saada ?
Oui, mais on m'a donné un certificat de nationalité en me disant « si vous le perdez, ben vous perdez la nationalité, on ne vous en refera plus jamais ». C'est-à-dire si mon appartement brûle ou est cambriolé, c'est fini, je suis de nouveau sans papier. Magnifique, hein ?
Ben merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, donc « Les mots, la mort, l'essor ». Comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins. Et puis ce livre très important, je crois, à lire et à relire en ce moment même, Jeu d'ombre sur la scène de l'ONU. Merci beaucoup, Jeanne Favret-Saada.
Merci.
Merci à Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard. Merci à Pierre Monteil et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.